les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les hôtels en Afrique. Nouveaux clients, nouvelles ambitions. Ces dernières années, l'hôtellerie en Afrique, en tout cas, a changé de visage pour répondre aux besoins d'une clientèle qui sillonne le continent pour le boulot. Alors, meilleur service, meilleur confort, mais pourquoi des prix encore si élevés? Et puis, l'Afrique va-t-elle demeurer encore longtemps le seul continent sans touristes dans ses hôtels pour le loisir? Les voisins, on attend vos témoignages, vos expériences, bureau des plaintes, félicitations ou questions. C'est le moment de faire entendre votre voix. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nos invités, je vous les présente tout de suite. Un dirigeant du groupe français Accor, un des leaders de l'hôtellerie internationale. Bonjour Souleymane Roll.
Bonjour.
Vous êtes vice-président des ventes marketing distribution pour l'Afrique et l'océan Indien. On sera également en ligne avec Mossadegh Bali, président fondateur du groupe hôtelier Azalaï, première chaîne hôtelière 100% africaine en Afrique de l'Ouest. Bonjour Mossadegh Bali.
Bonjour.
Soyez le bienvenu par téléphone avec nous. Vous êtes à Abidjan, hein, c'est bien cela en direct aujourd'hui?
Tout à fait.
Où un nouvel hôtel de la chaîne a ouvert il y a quelques semaines.
Il y a un mois exactement.
À Abidjan. Saskia Cousin dans le studio, anthropologue du tourisme, bonjour.
Bonjour.
Vous vivez à Dakar, vous avez publié une sociologie du tourisme et vous nous direz quelles sont les nouvelles pratiques de loisirs ou pas d'ailleurs des Africains lorsqu'ils quittent leur maison, où séjournent-ils? Et nous visiterons aussi un hôtel pas comme les autres à Abidjan, 8 chambres dans une maison de famille, l'hôtel particulier. L'Afrique des hôtels est en train de se diversifier et cela bouge peut-être plus vite qu'on ne pense. Je vous lis des messages postés sur Facebook ou sur notre fil Twitter. Ils sont très perplexes sur le sujet de l'hôtellerie, les voisins. Gildas, qui est à Bouaké, en Côte d'Ivoire, résider quelques jours dans un hôtel, c'est nouveau chez nous. Ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Quand on est à l'étranger, notre réflexe, c'est de chercher une connaissance chez qui rester durant le séjour. Même son de cloche chez Maxime à Yaoundé. L'Africain a une culture hospitalière. Ici, on accueille tout le monde chez soi, donc il n'y a pas besoin d'hôtel. Les Occidentaux, eux, ignorent l'esprit d'hospitalité, préfèrent vivre séparément. Du coup, ils ont besoin d'hôtel. Le raisonnement est imparable, je ne sais pas. Donc Airbnb avant l'heure, finalement.
C'est ça. C'est assez inspirant comme commentaire.
Valdo, à Douala, au Cameroun également. Les hôtels sont très chers, nous dit-il. C'est bizarre pour nous de s'y présenter. C'est quand on a quelque chose à cacher. Pourtant, il y a des chantiers d'hôtels qui poussent un peu partout. On sent la perplexité tout de même face à ce paradoxe. Abdoulaye, à Conakry, en Guinée, nous dit l'accessibilité aux hôtels est compliquée. Les hôtels sont généralement juste un lieu de rendez-vous. Au lieu de construire des hôtels, qu'ils construisent des écoles, des universités, des centres de formation, des hôpitaux. Voilà. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ces grands hôtels internationaux sont-ils une île artificielle dans un océan de pauvreté? Est-ce qu'on peut, on peut parler d'un business offshore ou pas aujourd'hui, Souleymane Roll, histoire d'attaquer fort, hein?
Alors, un business offshore, je pense qu'effectivement, on commence fort, mais je pense qu'il faut, il faut rappeler que l'hôtellerie en Afrique a plus de 40 ans, donc ça date pas de quelques semaines ou de quelques années. Donc, il y a une histoire. Le groupe Accor, par exemple, est présent en Afrique depuis 40 ans. Mmh. Et aujourd'hui, on a dépassé la centaine d'hôtels. Et Monsieur Bali, ici présent, en tout cas avec nous, me confirmera que l'hôtellerie est une industrie présente en Afrique depuis plusieurs années. Mmh. Donc,
mais sur ces nouveaux standards de luxe, Mossadegh Bali, industrie offshore ou pas par rapport aux standards du reste de ces pays?
Non, mais écoutez, pourquoi est-ce que l'Afrique n'aurait pas des hôtels et des hôtels de standing à l'instar des autres continents? Moi, je suis toujours un peu choqué de reléguer l'Afrique en bas des standards.
Non, mais vous avez entendu les réactions des auditeurs?
Oui, mais bon, les auditeurs, peut-être ce sont des auditeurs qui vivent dans leur pays, qui n'ont pas besoin de services hôteliers, mais si demain ils devaient décider de voyager et aller dans une capitale africaine où ils connaissent personne, ils seraient bien contents d'avoir un lieu.
Mais est-ce qu'il existe une capitale africaine où aucun Africain ne connaît personne? C'est toute la question, c'est ce qu'il y a, cousin.
Oui, absolument. Moi, si demain je vais à Kinshasa, je ne connais personne.
Non, sérieusement.
Oui, tout à fait.
Vous lancez un appel pour être hébergé à Kinshasa, donc Mossadegh Bali. C'est ce qu'il y a, cousin, anthropologue du tourisme.
Je crois qu'il y a, deux choses. Effectivement, il y a tout à fait la place et la pertinence pour avoir une hôtellerie haut de gamme pour les affaires. Mais la question qui se pose, c'est il y a le développement d'une classe moyenne africaine qui a des envies de loisirs et qui peut avoir des envies d'hébergement et pour des raisons financières ou pratiques, ne se retrouve pas dans l'hôtellerie. Et pour avoir eu des discussions justement avec des classes moyennes, on va dire supérieures, elles vont préférer aller par exemple au Maghreb, dans des hôtels tout compris, ou dans de l'hébergement locatif.
Pour des vacances là.
Pour des vacances.
Pour des Africains qui prennent des vacances.
Voilà. Donc moi je travaille plutôt sur la question du
des loisirs. Souleymane Roll, comment a évolué le continent en termes de besoins et hôteliers ces dernières années ?
Alors, en termes de besoins, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'il faut essayer de recadrer la discussion. L'hôtellerie n'a pas vocation que pour le loisir. D'abord, il y a de l'hôtellerie d'affaires, il y a de l'hôtellerie de loisirs. Donc, les gens se déplacent pour raison d'affaires. Et les Africains, les populations, comme tout le monde, se déplacent pour raison de loisirs aussi. Un peu moins qu'ailleurs, c'est vrai. Mais ils se déplacent aussi pour raison d'affaires. Donc, historiquement, c'est vrai que l'hôtellerie en Afrique, jusque-là, était essentiellement de l'hôtellerie d'affaires. Ça, c'est une réalité.
C'est encore le cas aujourd'hui dans les hôtels de votre groupe, non ?
Essentiellement, à 90%, aujourd'hui, on est sur de l'hôtellerie d'affaires. En revanche, mais tout ça, c'est lié à une société. C'est-à-dire que l'activité hôtelière ne peut pas être déconnectée de son environnement. Donc, il faut garder ça en tête. Effectivement, cette classe moyenne dont on parle en Afrique, qu'on estime à 300 millions aujourd'hui, cette classe moyenne aujourd'hui, en tout cas, voyage plus qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Maintenant, elle voyage essentiellement pour l'instant, pour raison d'affaires. Ça, il faut être très clair là-dessus. Une partie de cette population voyage pour du loisir, mais la tendance aujourd'hui, c'est de voyager pour du loisir vers des destinations, on va dire, plus matures en termes d'hôtellerie de loisirs, en Europe, aux États-Unis, ou bien au Maghreb, pour prendre des pays un peu plus proches. Donc ça, c'est une réalité. Donc l'offre hôtelière aujourd'hui est en train de s'adapter à ce nouveau comportement. Donc cette adaptation va se faire, c'est fait déjà dans le Maghreb, au Maroc et en Tunisie essentiellement, mais elle se fera aussi sur l'Afrique subsaharienne, au fur et à mesure que le pouvoir d'achat des populations va s'améliorer, au fur et à mesure que la demande va obliger, on va dire, les pays, les gouvernements à adapter les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, si on veut juste ramener le sujet à des exemples très basiques, je connais un peu Dakar, Abidjan, Bamako, ces villes de l'Afrique de l'Ouest qu'ailleurs, mais tout simplement, il y a 2 ans, pour faire Dakar-Sali, la station balnéaire très connue au Sénégal, il fallait un peu plus de 2 heures, quand tout se passait bien. Aujourd'hui, 1 heure suffit pour aller pour faire Dakar-Sali. Donc forcément, ça facilite les trajets entre Dakar et la station balnéaire. Et forcément, aujourd'hui, je pense que mes collègues qui sont sur cette station balnéaire ressentent déjà les effets de l'autoroute.
Ouais. Ceci dit, qui sont aujourd'hui les clients dans les chambres d'hôtel en Afrique pour les grandes chaînes hôtelières ? Est-ce que ce sont essentiellement maintenant, majoritairement, des Africains du continent ?
Alors, aujourd'hui, aux 2/3, l'activité hôtelière est drainée par, en tout cas, et aujourd'hui, 2/3 de notre activité est fait avec la clientèle locale, la clientèle africaine. Donc, on va dire c'est très récent. La tendance est inversée il y a 4-5 ans.
C'est-à-dire, pour parler clairement, il y a 10 ans, dans vos hôtels, on voyait que des Blancs.
Il y a 10 ans, il n'y avait qu'une clientèle européenne, quasiment, à 70%.
Mossadegh Bali, vous qui avez créé une chaîne complètement africaine, à partir du Mali au départ, vous, qui sont vos clients ?
Pareil, nous, nos clients, c'est aussi aux 2/3 une clientèle africaine. Et nous, on a commencé dès le début à avoir ce mix clientèle, puisque nous sommes une chaîne hôtelière africaine. Donc on attire toujours majoritairement une clientèle africaine. Mais c'est aussi le constat que l'Afrique bouge, l'Afrique change, et le commerce intra-africain, les mouvements intra-africains prennent le pas sur les mouvements entre continents.
Ça veut dire que vous vous arrachez tous les mêmes clients finalement, la classe moyenne émergente africaine.
Disons que c'est une part du gâteau qui grandit. Plus l'Afrique se développe, plus les Africains voyagent, cherchent d'autres horizons, ont les moyens de voyager. Et c'est tant mieux. Et c'est ça qui explique aussi que à côté des grandes chaînes internationales, il y a de plus en plus de chaînes africaines qui émergent.
Ouais, vous êtes la preuve que les Africains savent construire et gérer des hôtels internationaux, finalement, à Zalaï.
Oui, absolument. Mmh. Quand j'ai racheté le Grand Hôtel en 1994, un banquier français m'avait dit que ça, c'était du domaine réservé des groupes comme Accor et Sheraton et qu'il ne fallait pas que je me lance dans ça. Mmh. Moi, je suis heureux de prouver le contraire 22 ans après. Mmh.
Alors, cette clientèle africaine, vous la connaissez particulièrement bien, tous les deux. Quelles sont ses exigences?
Ben, la clientèle africaine, elle n'est pas différente de la clientèle européenne. Les exigences sont les mêmes, à savoir la qualité, Internet qui marche. Aujourd'hui, malheureusement pour nos pays, d'ailleurs pour la planète entière, la sécurité va en premier lieu, au premier rang des critères. Ensuite, c'est un bon Internet qui marche parce que aujourd'hui, on voyage avec son bureau. Et puis, le confort, voilà, c'est ce que je recherche, aussi bien les clients africains que les clients internationaux qui viennent d'autres continents. Ouais.
Souleymane Roll, pour vous
Non, je suis d'accord avec M. Bali, les fondamentaux du métier n'ont pas changé. Hein. Le client cherche du confort, de l'efficacité. Effectivement, il y a d'autres...
Il y a eu des adaptations quand même avec ce basculement chez vous d'une clientèle européenne à une clientèle aux deux tiers africaine.
Il y a une adaptation forcément parce que d'abord, le client cherche des standards internationaux, des standards qu'il peut retrouver dans tous les pays pour des raisons de sécurité et des raisons de confort, de repères et d'efficacité. En revanche, effectivement, ne serait-ce que dans le domaine de la restauration, il est évident qu'on ne propose pas la même carte à Paris qu'à Bamako. Donc,
autrefois, c'était plutôt le cas ?
Autrefois, on était dans l'ultra-standardisation, on a été dans la même carte à Londres, à New York, à
Paris. Ça veut dire que vous recrutez des chefs africains, par exemple?
On recrute de plus en plus de chefs africains, on recrute de plus en plus de pâtissiers africains, on recrute de plus en plus de collaborateurs africains, qui aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'écoute, aujourd'hui sont capables ont les mêmes codes que leurs clients, et donc ça améliore forcément les relations, parce qu'on est dans un métier de contact, quand même.
Saskia Cousin?
Alors moi, encore une fois, je travaille plutôt sur les mobilités de loisirs. Je pense qu'il y a effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe avec le continent africain sur les hôtels qui sont très centrés sur le tourisme d'affaires. Nous dit quelque chose de l'hôtellerie en général.
Tout à fait.
Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas visible encore, peut-être beaucoup dans les statistiques, mais qu'on a vu dans l'histoire du tourisme en Occident, mais en Asie, en Amérique du Sud, qui est un désir d'aventure et qui, pendant longtemps, comme je voudrais revenir sur les commentaires Facebook, ce rapport à l'hospitalité, le fait qu'on puisse être accueilli partout, c'est un élément très important, mais qui a existé un peu partout. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe, que j'ai pu observer comme ethnologue, qui est la volonté de voyager, notamment des jeunes gens, et donc d'aller chez une tante, etc. Mais qui aujourd'hui, quand ils ont les moyens financiers, va passer par des recherches d'hébergement qui ne sont pas ceux des hôtels parce qu'ils sont trop onéreux ou trop petits pour des grandes familles. Voilà. Alors, pour ce qui concerne mes enquêtes, si je peux, toute l'offre qu'il y a, malheureusement aujourd'hui, l'offre de location temporaire, souvent en fait, elle est tenue par des Occidentaux. Et donc ça pose quand même question. Moi, on a essayé, donc j'ai fait une petite enquête au Sénégal, d'aller spécifiquement dans des hébergements ruraux tenus par des Sénégalais. Et en fait, il y en a beaucoup. Je salue les gens de Samaï dans l'île du Saloum. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Mais pour l'instant, on a quand même une filière qui est occupée par souvent des expatriés, en fait. Et donc là, ça pose quand même question en termes de retombées économiques pour les populations locales.
Pour des étrangers fabriqués par des étrangers dans un pays qui n'est pas leur.
Sachant qu'on a en ce moment un boom extraordinaire de l'offre Airbnb, mais qui, en fait, il y a assez peu de créations à part dans les grandes villes, mais simplement des gens qui ça existait déjà et puis on les met sur les plateformes. Et en général, ces hébergements, ces chambres d'hôtes sont appelés campements, cases, enfin voilà, du marketing assez post-colonial où on peut comprendre que par exemple, les Sénégalais n'ont pas envie d'aller dans une case tenue par des Suisses, mais quand c'est au Sénégal. Mais voilà, ça pose quand même question. C'est une question que je pose aux professionnels que vous êtes. Enfin, il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'hospitalité régionale. Alors, Airbnb, c'est pas de l'hospitalité, non. C'est marchand. Hein.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Nous sommes en ligne avec Léa, c'est bien ça ?
Oui, bonjour Emmanuel.
Bonjour Léa, vous êtes à Yaoundé ?
Oui, je suis à Yaoundé.
Alors vous nous appelez pour nous parler des hôtels à Yaoundé ?
Bon, je sais pas vous parler des hôtels au niveau du Nord Cameroun. Mm-hmm. Cette zone qui est hautement touristique, qui n'a pas de touristique du pays. Bon, les hôtels se meurent dans cette région à cause de l'insécurité. Et il y a aussi les habitudes. Au Nord, quand tu vas en visite, il est inadmissible que tu vives à l'hôtel, sachant que tu as de la famille sur place. C'est mal vu, quoi. Bon, au niveau des grandes autres villes, c'est-à-dire Yaoundé.
C'est-à-dire, quand vous dites c'est mal vu, ça veut dire quoi ? Ça envoie un message ? On ne veut pas voir la famille parce qu'on ne va pas chez elle ?
Oui, bon, c'est l'interprétation de la famille. Autant, c'est pas ça.
Et pour... donc, oui, allez-y, Léa.
Oui, je dis au niveau des autres grandes villes, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam, les hôtels poussent. Et je crois que le tourisme d'affaires qui est plus prôné de ce côté-là. Donc, comment on va dire ?
Oui, Léa, je crois que vous étiez guide touristique hein, dans la région, dans le nord, hein, du Cameroun. Aujourd'hui, vous n'avez plus de travail du fait que le tourisme, qui était une petite activité, mais bien réelle, s'est complètement effondré à cause du terrorisme.
Oui.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, Léa. Alors, c'est vrai quand même qu'on n'a pas encore parlé de l'insécurité. Vous investissez, vous, les grands groupes, dans des villes africaines en proie à l'insécurité. Rien à voir avec la violence urbaine des villes sud-américaines, par exemple. Mais en même temps, tous les consommateurs, tous les clients potentiels ont en tête les attentats de Bamako, au Radisson, de Ouagadougou à l'hôtel Splendide. Alors comment vous abordez ce problème-là sous les Manerolles ?
Alors malheureusement, effectivement, l'insécurité aujourd'hui fait partie de notre quotidien, mais en Afrique, mais
ici
pas
aussi.
Plus qu'ailleurs.
Ici aussi.
Malheureusement, aujourd'hui, il faut être aussi très clair. Peut-être que l'Afrique pâtit de cette image depuis plus longtemps que les autres continents. Et donc effectivement, les grands groupes comme le nôtre, on prend des dispositions de sécurité, de renforcement de la sécurité au niveau des hôtels. Et aujourd'hui, c'est un critère de sélection pour les clients. Donc aujourd'hui, nos clients affaires choisissent aussi nos établissements parce qu'on leur garantit un niveau de sécurité, on va dire, minimal.
Ouais.
On ne peut jamais garantir à 100%.
L'essentiel, c'est de rassurer la clientèle.
On rassure les clients, on rassure nos collaborateurs parce qu'ils sont aussi victimes de cette insécurité. Donc ça fait partie malheureusement de notre quotidien, mais aujourd'hui l'Afrique n'est pas moins sûre que d'autres capitales, en tout cas les capitales africaines ne sont pas moins sûres que d'autres capitales dans le monde, mais effectivement aujourd'hui le Maghreb, l'Afrique subsaharienne pâtit de ces problèmes d'insécurité, mais en revanche en tout cas les grands groupes, tout le monde prend ses dispositions pour anticiper d'éventuels événements malheureux.
Le groupe terroriste État islamique, en tout cas, ne cache pas ses velléités de se déployer sur le continent africain. Hein, après ses échecs au Moyen-Orient, avec de nouveaux pays qui pourraient être ciblés, on parle du Bénin. Alors, vous avez aussi le ralentissement économique ces derniers temps, les liaisons aériennes qui sont insuffisantes sur le continent, coûteuses. Le terrorisme, comment vous allez composer avec tous ces points négatifs pour attirer des clients qui, ils vous l'ont dit, hein, en début d'émission, bah, finalement, on ne voit pas trop l'intérêt d'aller à l'hôtel quand on a un proche parent qui peut vous héberger. On va en discuter juste après le flash. On va rendre l'antenne pour le flash. Et bien sûr, on vous retrouve sous les Manerolles. Mossadegh Bali en liaison téléphonique à Abidjan. Et puis Saskia Cousin. Et bien sûr, vous nous appelez. Et d'ailleurs, si vous travaillez vous-même dans le secteur hôtelier sur le continent africain, vos témoignages nous intéressent. Ou si vous êtes tout simplement client, appelez-nous. N'attendez pas la fin de l'émission. Dans 3 minutes, on se retrouve juste après le flash sur RFI.
Les 7 milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, l'hôtellerie en Afrique aujourd'hui, un continent pas comme les autres assurément. Pourquoi les hôtels sont si chers? Pourquoi ils s'adressent principalement à une clientèle d'hommes d'affaires ou de personnel des organisations internationales? En tout cas, les gens qui viennent dans les hôtels pour travailler. Pourquoi les voisins nous disent, avec l'hospitalité africaine, pas besoin d'aller à l'hôtel, on a toujours un parent qui peut nous héberger quelque part. Vos expériences, vos points de vue, y compris d'ailleurs si vous travaillez dans l'hôtellerie en Afrique, quel que soit, si vous travaillez y compris dans un petit hôtel, appelez-nous. On a bien sûr évoqué les questions de sécurité, la montée du terrorisme sur le continent africain. Nous en discutons avec Soliman Roll, vice-président des ventes marketing distribution pour l'Afrique et l'océan Indien du groupe Accor. Saskia Cousin, anthropologue du tourisme, et Mossadegh Bali, au téléphone avec nous d'Abidjan, président fondateur du groupe hôtelier Azala et première chaîne hôtelière 100% africaine en Afrique de l'Ouest, premier hôtel ouvert en 95. Alors pendant le flash, nos invités continue de discuter énormément. Vous n'en profitez pas, vous les voisins, mais Saskia Cousin, vous nous disiez, il y a aussi aujourd'hui une demande qui émerge de la diaspora africaine qui revient l'été pour voir la famille, pour voir les parents et qui a désormais parfois un besoin d'hébergement aussi surprenant que ça puisse sembler tout de même.
Oui, en fait, les gens vont partir, par exemple, 2 mois en vacances, retenir au pays. Donc, des expatriés, je connais bien le cas du Bénin, qui reviennent au Bénin. Ils ont envie de voir la famille, mais c'est aussi un moment de vacances. Donc, ils ont aussi un moment de envie de se retrouver en famille. Et donc, ça, ils ne vont pas forcément dans les grands hôtels. Mais en tout cas, il y a cette idée-là où on n'est pas juste dans l'hospitalité. On va chez tonton ou tata. Et,
l'hospitalité avec ses multiples sollicitations. Il faut tout de même dire les choses.
Sollicitations, voilà. Où on va dans un hôtel où on ne connaît personne. Et donc, il y a plein de gens qui, en fait, prennent un chemin entre deux où ils vont passer un mois dans la famille ou différentes branches de la famille et ils vont prendre un moment plus ou moins important pour aller dans une station balnéaire, pour aller dans un campement rural, pour louer une maison. Voilà.
Comme les Toubabs. Finalement.
Comme les Toubabs, simplement, ils vont faire les deux.
Oui.
C'est ça qui est intéressant. C'est pas, ils vont faire les deux. Ils vont aller dans la famille, comme dans leur famille d'origine, et ils vont avoir des activités comme les Toubabs, comme vous dites. Mais justement, on peut pas les réduire ni à l'un ni à l'autre. Donc, ils sont en train d'inventer quelque chose, et je pense que c'est très important de le noter.
C'est en fait, votre commentaire est symptomatique d'une société qui est en mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a une nouvelle génération qui a, on va dire, le prototype d'une famille africaine dans l'inconscient collectif. C'est tout de même une famille nombreuse avec plus de 4 enfants, voire plus. Et donc aujourd'hui, on bascule quand même dans une nouvelle génération où les familles ressemble plus à une famille, si je peux rentrer dans les caricatures, à une famille occidentale.
Donc, dans la classe moyenne aisée.
Dans la classe moyenne aisée, bien sûr.
La transition démographique n'est pas réellement entamée sur le continent.
C'est de cette classe-là dont on parle quand on parle d'hôtellerie. Et donc cette classe moyenne qui aujourd'hui a un comportement qui est tiraillé entre la culture de l'hospitalité et d'aller dans la famille pendant les vacances et le besoin de se retrouver dans un hôtel ou dans une station balnéaire, aller à la plage, des plaisirs simples qui, pour le commun de la population, la grande majorité de la population africaine, est un comportement de toubab, si on peut reprendre vos termes. Aujourd'hui, c'est vrai que ça entraîne une consommation différente, un type de consommation de l'hôtellerie qui est différente. Aujourd'hui, cette diaspora dont vous parlez, il n'y a pas que cette diaspora. Ce comportement n'est pas propre à la diaspora. Elle est aussi bien au niveau de la diaspora, dont les enfants sont nés en Europe, la plupart du temps, et ont un comportement d'occidentaux, et une classe moyenne en Afrique, dont aujourd'hui, on va dire, quelques références. Les références ne sont pas si claires que ça. On a des références occidentales,
qui a moins de vacances, mais qui a besoin de quelques jours de repos qui a besoin de se retrouver en famille.
Qui a besoin de se retrouver, à l'hôtel ou pas, en tout cas, avec un comportement qui ne ressemble pas à ce qu'on connaissait jusque-là.
Mossadegh Bali, Abidjan, vous souhaitez intervenir?
Oui, en fait, moi, je voulais dire simplement que toute cette discussion mène à un constat de fond. L'Afrique bouge, l'Afrique change, sa population change, les mœurs changent, la culture change, il faut faire avec. Mmh.
Et c'est compliqué pour vous quand on sait qu'il faut quoi, 3-4 ans pour construire un hôtel, combien de temps pour qu'il fonctionne pleinement, alors que l'Afrique bouge peut-être plus vite que ce que vous êtes capable de donner comme réponse ou pas?
Oui, mais en fait, en ce qui nous concerne, je pense que l'Afrique bouge dans le sens où nous accueillons de plus en plus d'Africains qui, au lieu d'aller en famille, viennent à l'hôtel. Je suis tout à fait d'accord avec madame et avec son constat. Mais ça, c'est une lame de fond, à mon avis, qui ne va pas changer. Sans compter aussi que les conditions économiques ont changé. Peut-être que les Africains n'ont plus les moyens, je dirais, matériels et financiers d'avoir l'accueil et l'hospitalité légendaire en raison de toutes les difficultés. Et ça aussi, c'est un élément non négligeable dans ce changement de fond.
Ouais. Alors, ceci dit, on n'a pas encore abordé la question du début de l'émission, et beaucoup d'auditeurs l'ont souligné, pourquoi les hôtels sont si chers en Afrique. Alors, pour ceux qui connaissent que le continent africain, peut-être ne se rendent-ils pas compte, mais je parle bien de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi les hôtels sont si coûteux par rapport au Maghreb, je veux dire, à standard comparable, hein, bien sûr, par rapport à l'Asie, voire même comparable au continent sud-américain.
Les hôtels sont chers parce que pour les construire, ça coûte très très cher. D'abord, le foncier coûte cher. Les pays qui accueillent beaucoup de touristes, tels que le Maroc, la Tunisie, bien en Asie, ont compris que pour attirer plus de touristes, il faut avoir des prix raisonnables. Et ils ont adopté une politique en matière foncière qui fait que le promoteur peut accéder au foncier à des coûts très bas. Ce n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest où quasiment vous achetez un terrain avec des prix à des prix spéculatifs. Ça, c'est un. De deux, la construction coûte cher parce que dans la quasi-totalité des pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, mais je dirais quasiment partout en Afrique, tous les matériaux sont importés. Donc ça coûte excessivement cher. Et ensuite, un hôtel que vous faites à Paris, vous n'avez pas besoin d'acheter un groupe électrogène. En Afrique, vous ne pouvez pas faire un hôtel sans groupe électrogène. Imaginez le coût d'un groupe électrogène pour secourir un hôtel de 200 chambres. C'est énorme, c'est un million de dollars.
Vous devez un groupe électrogène, c'est un million de dollars pour un hôtel de 200 chambres?
Absolument, madame Bastide. Vous devez donc acheter un groupe électrogène. Vous devez avoir une station d'épuration. Un hôtelier à Paris n'a pas besoin de mettre une station d'épuration. Il y a le tout à l'égout à Paris. À Abidjan ou à Bamako, vous êtes obligé de mettre en place. À Abidjan encore, il y a le système. Il y a des capitales où vous êtes obligé de mettre une station d'épuration. Donc ce sont des coûts additionnels que n'ont pas des hôteliers à Singapour, à Paris ou à Londres. Sans compter que l'électricité.
Ou même à Tunis, d'ailleurs.
Ou même à Tunis ou à Casa.
Sans compter le coût de l'énergie, le kilowatt le plus cher de la planète sur le continent subsaharien.
Qui est, je pense, le plus cher en Afrique de l'Ouest. Voilà, si vous mettez tous ces facteurs bout en bout, vous expliquez le coût d'une chambre. Sans compter qu'un pays comme la France, qui est le premier pays touristique au monde, a mis une TVA différenciés sur les produits touristiques. Dans nos pays, on a encore des TVA au taux normal, à savoir entre 18 et 20%.
Saskia Cousin, je vous voyais tiquer quand je disais que les hôtels en Afrique étaient tout de même très chers, comparables, si on prenait les standards comparables sur d'autres continents, vous n'aviez pas l'air d'accord avec ça?
Ah si, tout à fait, c'est impressionnant, mais c'est comme le prix d'un billet d'avion,
etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un hôtel à 10 ou 15 euros en Afrique, bien sûr. Hein.
On peut trouver des hôtels pas chers, mais alors après, la question des normes de confort se pose. Après, il y a des très vieux hôtels, connais au Bénin ou au Sénégal, et qui ont des normes de confort. Enfin, moi, j'ai logé dans les hôtels, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, enfin voilà. Donc, entre un hôtel dont je peux comprendre tout à fait les tarifs, parce qu'il a une station d'épuration, il a l'électricité, etc., et des hôtels où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, des cafards partout, et où le tarif est quand même très élevé par rapport
à l'Asie, notamment.
Ça pose question, en fait, pour des gens qui sont dans des mobilités de loisirs, qui n'ont pas les moyens d'un hôtel. Donc autant sur l'hôtellerie haut de gamme, je peux comprendre, autant il y a une réflexion.
Vous voulez dire que sur l'hôtellerie bas de gamme, on ne comprend pas pourquoi les prix sont relativement élevés, alors que justement, il n'y a pas eu d'investissement de groupe électrogène, etc.
Alors, la question, c'est que du coup, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger, mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est pourquoi il y a une concurrence, je comprends mieux avec les prix annoncés, notamment d'un groupe électrogène, des locations, des appartements loués, des offres chez l'habitant, etc. Parce que finalement, il n'y a pas les mêmes besoins. Et donc, les tarifs, en fait, sont beaucoup moins chers. C'est-à-dire, pour une famille qui a envie de se loger, pour du loisir pendant une semaine, il vaut mieux louer un appartement que d'aller dans un hôtel où... bas de gamme, je veux dire, où il y aura de l'eau 3 heures par jour et des choses comme ça.
Non, mais je ne vais pas revenir sur l'ensemble des coûts de structure qu'a décrit M. Bali et qui sont plus que justes, mais même dans l'hôtellerie bas de gamme, quand on parle d'hôtellerie, pour avoir ce niveau de confort, il y a des dépenses qui sont incompressibles, qu'on vient de citer, sur lesquelles on ne va pas revenir. Donc, ça, qu'on soit dans de l'hôtellerie bas de gamme, une station d'épuration, ou dans l'hôtellerie haut de gamme, on ne peut pas y échapper. Donc, ces coûts-là ne sont pas liés au niveau de confort de l'hôtel. C'est que le foncier, c'est le foncier. Le groupe électrogène, qu'on ait un hôtel de 200 chambres économiques ou de luxe, il reste le même. Donc, tous ces éléments-là expliquent les coûts de l'hébergement hôtelier en Afrique. Le deuxième point, c'est qu'il faut être aussi très clair. L'exigence qu'on a envers une chaîne hôtelière, que ce soit une chaîne internationale ou une chaîne locale, n'est pas la même quand on loue chez l'habitant. Aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui aller sur TripAdvisor, pour ne pas le citer, et commenter mon séjour chez Madame Diop ou Madame Diaye ou Madame Nguessan. Non, mais quand on parle, je ne parle pas d'Airbnb. Juste si quand j'ai fait le choix d'aller loger chez des amis ou chez de la famille, ou de louer juste un appartement au détour d'une connaissance, il n'y a pas d'enjeu, je veux dire.
La dictature TripAdvisor, justement, on peut parler d'une dictature ou pas pour vous, les hôteliers, aujourd'hui ?
Moi, je n'appellerai pas ça de la dictature. Il y a aujourd'hui, on va dire, plus de transparence qu'avant, il faut être très clair. Le client, aujourd'hui, a pris le pouvoir, il faut aussi être très clair là-dessus.
Mais il y a des clients qui vous menacent carrément de ne pas payer ou qui demandent un rabais à la dernière minute parce que sinon, ils vous menacent d'un commentaire absolument dévastateur sur TripAdvisor.
C'est une réalité, mais honnêtement, quand on rentre dans le détail...
Il y a des chantages à TripAdvisor ?
Oui, il y a des chantages à TripAdvisor. Il y a des chantages sur les sites de commentaires, tous les sites de commentaires ou de comparateurs de prix. En revanche, quand on regarde dans le détail, c'est un épiphénomène, ça ne représente pas la grande majorité des clients. Heureusement, la grande majorité des clients sont de bonne foi.
Alors, je voudrais tout de même qu'on vous le disiez, Mossadegh Bali, Souney Malrol, la clientèle africaine, l'Afrique évolue extrêmement vite par rapport à l'offre hôtelière. Il y a une toute nouvelle catégorie d'hôtels qui est en train de voir le jour dans quelques capitales africaines. Alors, une poignée de chambres dans des boutiques hôtels ou des hôtels jardins. Un exemple à Abidjan, dans cette ville du business, Colette Kakoutier, avocate ivoirienne, a ouvert un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Particulier, après des travaux dirigés par son frère architecte de renom. 8 chambres, c'est ce qui s'appelle une niche, hein, on est d'accord par rapport au groupe Accor. Une niche que j'ai visitée pour vous.
Nous sommes dans le quartier de Kokodi, qui est le quartier résidentiel d'Abidjan, qui a gardé toute sa verdure, contrairement à d'autres quartiers du sud d'Abidjan. Cet hôtel donc est né de la volonté de faire revivre un lieu d'enfance que j'ai hérité de mes parents.
Vous avez grandi là, dans votre enfance ?
J'ai vécu là, en effet. Donc, le simple fait de me retrouver dans ce jardin me replonge quelques années en arrière. Et c'est parti d'une idée tout à fait simple. Hein. J'étais en vacances à Dakar. J'ai eu l'occasion d'habiter une maison d'hôte à Dakar, toute petite mais mignonne. Et cette maison, je devais la réhabiliter pour moi. Et je me suis dit que ça serait bien de la réhabiliter en hôtel, de manière à pouvoir y revenir avec ma famille, donc tout le monde en profite. Et en même temps, l'hôtellerie étant une passion secrète, ben voilà, j'ai trouvé le moyen d'allier tout ça et de faire cet hôtel. Et la particularité a été de vraiment vouloir conserver la verdure, parce que dans nos pays sous nos tropiques, malheureusement, le béton prend le pas sur la verdure et les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais avec tout ce jardin, mais tu peux faire des immeubles, mais enfin, tu peux gagner beaucoup d'argent. Je le sais, mais ma motivation est tellement décalée. C'est un hôtel jardin et c'est ça que je veux mettre en avant. Je respecte la clientèle et je veux que cet hôtel soit prisé par les personnes qui sont amateurs de nature, de verdure et de beauté et de bien-être. Vous êtes accueilli par un bassin d'eau, hein. Ensuite, vous avez bien sûr le béton et puis le bois qui entoure chacune des chambres, des terrasses des chambres. Un mélange vraiment de design moderne.
C'est très personnel en même temps. On n'est pas dans le stéréotype des hôtels de chaîne.
Non, absolument pas. C'est vraiment, on essaie de faire ressortir le caractère de chaque chambre. Là, nous sommes dans la salle de bain qui donne sur la terrasse privative, hein, avec une baie vitrée. Et la petite particularité que les clients aiment bien, c'est le toit ouvrant au-dessus de la...
Oui, de au-dessus la, de la douche, de c'est la... une vitre. Donc on voit le ciel et les arbres. Ciel.
Et donc on peut prendre sa douche sous les étoiles.
Abidjan, c'est vraiment une ville où il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Ils coûtent très cher et ils appartiennent tous à des grandes chaînes.
Mm-hmm. C'est pour ça que nous, on a voulu offrir quelque chose de vraiment différent, de décalé par rapport à ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une clientèle à la recherche de ça. La preuve, c'est que depuis que j'ai ouvert l'hôtel particulier il y a 4 ans, il y a d'autres maisons qui se créent dans cet esprit-là, parce que les gens ont bien compris que c'était un marché à prendre. Et la clientèle nous signifie bien qu'elle est contente d'éviter le grand hôtel classique. Ce n'est ni un hôtel, ni une maison d'hôte. Une maison avec des services hôteliers de qualité, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer et qui est à la portée peut-être de plus grand nombre.
Oui, qu'est-ce qui manque, à votre avis, dans l'hôtellerie globalement en Afrique ?
C'est le côté un peu typique. On s'imagine qu'il faut faire des hôtels comme en Europe. Donc on a de très beaux réceptifs hôteliers, mais nous sommes quand même dans un environnement. Le Maroc, par exemple, réussit ça très bien. Vous rentrez dans un hôtel au Maroc, que ce soit un Sofitel ou autre, vous savez que vous êtes au Maroc. Donc c'est ça, c'est ce côté vraiment chaleureux, étudié et vraiment cohérent avec l'environnement africain. Mais quand il s'agit du service, on n'est plus maison, on est hôtel. Et le client est très exigeant. Autant il est charmé par le fait que ce soit une maison, il aime bien l'histoire et tout, autant il sera impitoyable sur le service. Donc nous sommes obligés d'avoir des personnes très très bien formées. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être opérationnel, efficace, on ne va pas forcément prendre quelqu'un qui sort d'une école d'hôtellerie parce qu'ils ne sont pas forcément très très opérationnels et ça manque... En termes de formation, on a vraiment des lacunes.
Colette Cacoutier, comment vous envisagez l'avenir ?
Déjà, nous sommes en train d'agrandir cet hôtel. Et je crois, oui, que c'est un modèle qui va vraiment se développer. Il y a de la place. Il faudrait que les personnes donc, qui se lancent dans ce genre d'aventure n'imaginent pas que c'est une boîte à sous et que c'est facile. C'est très difficile, très exigeant. Mais le maître mot est le respect du client. Et si on décide de respecter le client, à ce moment-là, on peut multiplier ce genre d'initiatives, être même concurrent, entre guillemets, des grandes chaînes, qui d'ailleurs, elles-mêmes, sont en train de s'organiser pour la création, elles-mêmes, de petites entités comme ça. Hein. Donc, on voit venir.
C'est ça, on vous observe.
Je crois qu'on nous observe et je vois qu'il y a des grands hôtels qui, en plus de gérer les grands hôtels qu'ils ont, gèrent aussi des petites maisons. Oui. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui intéresse et qui est porteur.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, c'est l'hôtel particulier à Abidjan, Colette Cacoutier, qui a créé cette maison, cet hôtel un peu particulier. Sous les Manerolles du groupe Accor, c'est vrai, le groupe Accor se lancerait dans des produits comme ça, très confidentiels, comme ce qu'on vient d'entendre ou pas ?
Alors, le groupe Accor se lance dans ce type de produits, oui, parce qu'aujourd'hui, déjà, il faut avoir un portefeuille de marque le plus élargi possible pour répondre à l'ensemble des besoins des clients. Tous nos clients ne sont pas des hommes d'affaires qui cherchent des hôtels d'affaires, de son chambre, donc effectivement. Les hôtels boutiques, comme nous on les appelle, sont des marchés de niche et sont des marchés qui intéressent une partie de la clientèle qui cherche une expérience. Souvent, c'est le maître mot, c'est des clients qui cherchent une expérience différente. Donc effectivement, c'est un marché de niche et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
Mossadegh Bali, vous allez ouvrir des boutiques hôtels, vous ?
Non, nous, on n'a pas prévu de se lancer dans ça. Par contre, je suis très heureux de constater cette évolution. C'est pour ça que je disais que l'Afrique bouge et très, très rapidement. Nous, on n'a pas prévu d'investir dans ce domaine-là. Par contre, les Africains, je les encourage. Vous savez, quand j'ai commencé, on m'a dit que l'hôtellerie, ce n'est pas pour les Africains. Le message que je veux envoyer aux Africains, c'est que c'est une industrie comme une autre, mais surtout une industrie qui crée beaucoup de valeur ajoutée, qui paye des taxes et des impôts à l'État, qui crée énormément d'emplois, et Dieu seul sait qu'on en a besoin sur ce continent avec les centaines de millions de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. Il faudrait que les Africains se lancent dans cette industrie. Il y a une place à prendre, il y a des besoins énormes, l'Afrique est ouverte, les gens s'intéressent à l'Afrique, ils viennent, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de salles de réunion.
Bon.
Donc il faudrait que les particuliers africains se lancent dans l'hôtellerie, et je pense que les boutiques hôtels...
Ah bah vous appelez à la concurrence alors en fait, hein, vous vous tirez une balle
non,
dans le pied.
Non, c'est complémentaire, vous savez, on est dans une industrie où plus vous avez des capacités d'accueil, plus vous pouvez accueillir des manifestations et de la clientèle.
Non, mais
moi,
surtout,
je l'ai vécu à Bamako.
Monsieur...
Le nombre d'hôtels a explosé à Bamako et du coup, aujourd'hui, Bamako peut accueillir beaucoup de grandes manifestations qu'il ne pouvait pas accueillir avant que...
Donc, par ricochet, c'est bon pour vous, finalement.
Non, mais c'est bon pour tout le monde. Et monsieur Bali, excusez-moi de vous interrompre, mais monsieur Bali a tellement raison qu'aujourd'hui, si on reprend les chiffres, aujourd'hui, on parle de 89 chambres pour 1 million d'habitants en termes d'hôtellerie en Afrique pour l'instant. Je veux dire, quand on compare, ça n'a rien à voir.
C'est pour ça que vous prévoyez à Accord d'ici 3 ans d'ouvrir des hôtels presque partout. 50 hôtels en Angola, j'ai vu.
50 hôtels en Angola, 200 hôtels en Afrique en 2020. Donc effectivement, il y a de la place.
2020, c'est 3 ans.
Dans
200
3 ans.
Hôtels
donc,
d'ici 3
on
ans.
On est à 111 hôtels, on devrait atteindre 200 hôtels en 2020.
Mais Madame Bastide, si vous permettez, j'aimerais revenir sur le problème de l'insécurité très rapidement. Moi, je déplore le traitement de l'Afrique dans ce domaine sur les médias. Quand il y a ce qui s'est passé à Londres, personne ne dit n'allez plus à Londres. Dès qu'il y a un événement comme ça dans une capitale africaine, tout le monde dit n'allez pas dans cette capitale.
Bon, moi, attendez, vous n'avez pas vu les chiffres de l'hôtellerie à Paris qui a quand même, c'est quand même bien écroulé ces dernières années, tout de même, tous les attentats.
Personne n'a jamais dit à ses ressortissants n'allez à Paris aux attentats de Paris.
Ouais.
Je pense quand même qu'on doit revoir ce traitement de l'Afrique dans les médias en ce qui concerne la sécurité parce que c'est totalement injuste. Londres ou Paris n'est pas plus... sécurisé qu'Abidjan ou Ouagadougou.
Tout à fait. Et il faut bien le dire, il y a peu de violence urbaine dans les villes africaines, à quelques exceptions près, si on compare au continent sud-américain notamment. Nous passons la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Boaké, en Côte d'Ivoire, dans le Nord.
Tout à fait. Nous sommes à Boaké, où nous avons un hôtel qui s'appelle Hôtel Mon Afrique, que nous avons... pour lequel on a fait les premières chambres en 96 et aujourd'hui il a 36 chambres. Et en août 2015, dans le cadre de la fête nationale, on a été récompensé comme meilleur hôtelier du Côte d'Ivoire 2015.
Mmh.
Donc c'est un hôtel atypique dans la mesure où il s'oppose aux hôtels qu'on appelle boîte à chaussures. Il est très espacé et il y a des animaux.
C'est
il y a
pour qui les hôtels boîte à chaussures là,
je vais
le
prendre pour moi ça.
Bah, l'hôtel boîte à chaussures, c'est ce qu'on... Enfin, je ne vais surprendre personne, c'est des boîtes à séminaires.
Il se trouve que vous appelez, j'étais pas au courant que vous appeliez, vous avez appelé pendant le direct, je pense que vous êtes tombé sur notre émission. Il se trouve que j'ai séjourné dans cet hôtel à l'époque où le pays était encore coupé en deux. Donc effectivement, je ne savais même pas que l'hôtel existait toujours, vous voyez.
Ah, mais il existe toujours, il s'est développé.
On y mangeait très très bien.
Mais on y mange toujours bien.
Et alors, quel est le message que vous voulez nous faire passer finalement, Jacques, hôtelier français en Côte d'Ivoire qui a survécu à tout?
Donc, aux Français, certes, mais ma femme est là depuis 73 avec la double nationalité, donc elle est très ivoirienne. Et donc, nous, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on parlait du tourisme, si vous voulez.
Oui.
Donc, nous, l'essentiel des clients, c'est du tourisme d'affaires, mais on voit apparaître un petit peu de touristes. Et puis se range en plusieurs catégories le tourisme des gens qui reviennent, des Français qui reviennent voir la maison d'antan, et ça c'est assez fréquent. On a aussi des vrais touristes qui viennent à l'aventure, en particulier on a une agence qui travaille avec des Italiens. Et puis on a aussi les cadres moyens ivoiriens qui viennent au pays et qui viennent à l'hôtel. Donc c'est un peu c'est des touristes qui viennent avec les enfants, etc. Donc c'est différent.
Vous voyez arriver, donc, y compris chez vous, une clientèle africaine aujourd'hui, et qui ne viendrait pas que pour le travail, pour une conférence, pour des organisations internationales.
Voilà, sur le dernier week-end, on avait trois familles qui sont venues pour se détendre.
Bon, et bah c'est bon signe, ça a bien changé, parce que effectivement, à l'époque des années très difficiles en Côte d'Ivoire, c'était surtout des militaires de passage hein, qui étaient chez vous à l'hôtel Mon Afrique. Merci à vous de nous avoir appelé. Saskia Cousin, alors vous qui êtes anthropologue du tourisme sur le continent africain, comment voyez les évolutions à venir?
Moi, je pense que c'est très intéressant et très important. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse de genre. C'est-à-dire, vous l'avez dit au moins 10 fois, les hôtels, c'est pour les hommes d'affaires. Or, les femmes qui font des affaires ou alors qui sont dans des logiques notamment universitaires ou de coopération voyagent souvent différemment et, par exemple, vont associer travail et famille, où elles vont venir avec des enfants, etc. Et donc, la manière dont, en tant que femme, on est de famille, on se déplace.
Vous trouvez que les hôtels ne sont pas adaptés à une clientèle féminine?
On ne va jamais aller au nouveau hôtel. Ouais. Et même si on a les moyens. Non, mais voilà.
Et pourquoi?
Et donc, parce que le groupe Accor, comme tous, a fondé finalement l'industrie pour les hommes d'affaires. Et la question des familles, vous pouvez. En tout cas, en termes de pratique, il y a des choses qui sont en train de changer, mais en termes de pratique, ça n'a jamais été conçu pour les familles.
Souleymane Roll, vous avez le mot de la fin?
Alors, je suis très étonné par cette perception, mais ça veut dire qu'on a encore une marge de progression. Juste pour rappel, Novotel, comme vous l'avez cité, et le cœur de cible de Novotel, c'est les affaires et la famille. Donc, c'est une des marques qui, aujourd'hui, accueille le plus de familles. Dans l'hôtellerie.
Et là, en tout cas, affaire à suivre, hein, parce que les choses vont continuer de changer dans l'hôtellerie en Afrique. Merci à vous, Souleymane Roll, vice-président des ventes marketing distribution pour l'Afrique et l'océan Indien, donc du groupe Accor. Merci à vous, Saskia Cousin, anthropologue du tourisme. Vous avez publié une sociologie du tourisme aux éditions La Découverte. Et merci à vous, Mossadegh Bali, en direct d'Abidjan, président fondateur du groupe hôtelier Azalaï, première chaîne hôtelière 100% africaine en Afrique de l'Ouest. Et merci à toute l'équipe, Sophie Janin, Camille Nérand, Cécile Lavolo, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. Rediffusion de notre émission sur la pornographie et les jeunes. Sensibilisation, interdiction, sanctions. Comment agir vis-à-vis de la pornographie? On en parle demain dans l'émission. Merci de votre fidélité.